sur RFI.
La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, je vous propose que nous nous intéressions pendant quelques minutes au troubadour en compagnie de Michel Zinc. Michel Zinc est professeur au Collège de France, il est membre de l'Institut et depuis fort longtemps maintenant, il s'intéresse au troubadour, à la production des troubadours, à la vie des troubadours et à ce qu'était la poésie dans le sud de ce qu'on appelle la France aujourd'hui, en gros au 12e et 13e siècle. Alors, puisque le jour est levé maintenant depuis longtemps, je vous propose de commencer avec le chant de l'Alouette. Bonjour Michel Zinc.
Bonjour.
Merci bien de venir nous voir avec ce livre que vous avez fait paraître il y a peu de temps aux éditions Tempus. Il y en a eu une première version
en
2013.
C'est la réédition en poche.
Il y a une réédition en poche de cette petite somme tout à fait concentrée qui est consacrée donc aux troubadours. Les troubadours, dites-vous, puisqu'on est dans la danse des mots, je vous demanderai volontiers de me commenter ce nom de troubadour. On sait que troubadour appartient à la langue du Sud, disons à la langue d'oc, oui. Qu'on disait ou qu'on dit aujourd'hui trouvère pour parler de ceux qui étaient dans le Nord, et que, bien entendu, on entend la racine de ce qu'on trouve, de ce qu'on improvise. Alors, d'où vient ce mot de troubadour? Oui. Qu'est-ce qu'il recouvre, quoi?
Comme vous le dites, c'est un dérivé du verbe qui est trobar en langue d'oc, trouver en langue d'oïl, en français, et qui veut dire trouver. Donc c'est le troubadour est celui qui trouve. Alors pourquoi appeler un poète quelqu'un qui trouve? On m'a dit parce qu'il trouve les mots, parce qu'il trouve les mots et la mélodie. Peut-être, mais le terme est tout de intrigue tout de même, d'autant plus qu'il semble que le sens que nous donnons au verbe « trouver » vienne justement des troubadours, que ce soit fait dans l'autre sens. Et une étymologie qui a été proposée est de rapprocher « trobar »,« trouver », de « trop », les tropes étant, bon, pour nous, les lieux communs du langage, mais désignant au Moyen-Âge un type de poésie latine qui est une poésie liturgique pour la constitution des offices chantés. Dans ce cas-là, comme il y a peu de rapport entre les offices les poèmes d'amour des troubadours, les troubadours auraient repris des formes poétiques, mais pour dire autre chose. Mais c'est une hypothèse qui n'est pas admise par tout le monde, d'autant plus que on a l'impression à ce moment-là de s'engager dans la question très très difficile des origines de cette poésie, et phonétiquement si, l'origine c'est trop, ça ne fait guère de doute, pourquoi trop? On n'en sait pas trop. Donc j'ai parlé beaucoup pour pas dire grand-chose.
Sachant que les tropes, aujourd'hui, ça veut dire les figures de style.
Ce sont les figures de style, oui. Et c'était déjà les figures de style. Mais il se trouve que le mot était employé en latin médiéval pour désigner ces poèmes liturgiques.
Alors, vous dites qu'on ne sait pas comment naissent les traditions des troubadours. Néanmoins, on sait, et on vient d'entendre donc ce chant de l'Alouette de Bernard de Ventadour, dont vous parlez dans votre ouvrage, donc Les Troubadours, qui est reparu récemment. On sait que c'est né au début du XIIe siècle. Il y a vraiment une floraison à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'on date ça justement du début du XIIe siècle? Qu'y a-t-il à ce moment-là? Qu'y a-t-il avant?
Alors, il y a à ce moment-là le premier poète, le premier troubadour, le premier dont nous avons conservé les chansons, mais qui n'est peut-être pas le premier absolu parce que c'est un très grand personnage. C'est un des plus grands seigneurs du temps, Guillaume IX, comte de Poitiers, duc d'Aquitaine. Et
oui,
évidemment,
vous dites même qu'il a plus de possessions que le roi de France.
Oui. C'était vraiment un très, très grand prince.
Grand seigneur, oui.
Et il, donc, naturellement, on conserve plus facilement les poèmes des grands seigneurs que des pauvres airs. Donc, il a pu y en avoir avant. Mais enfin, si on a eu avant, il n'y en a pas eu beaucoup. Lui, donc, qui est à la charnière des deux siècles, né en 1071, mort en 1126, est le premier dont nous ayons 11 chansons. Et en même temps, des chansons très diverses, un peu plus de la moitié, puisque c'est 11, c'est vraiment un chiffre impair, sont des chansons extrêmement obscènes, et d'autres dans lesquelles il chante, il célèbre une dame infiniment aimée et respectée, et il est le premier à chanter ce que nous appelons, nous, l'amour courtois. Et dans les années qui suivent, dans la première moitié, ou même le premier tiers, déjà, du XIIe siècle, il y a vraiment une floraison de poètes extraordinaires, et ce type nouveau d'expression poétique, de sensibilité à l'amour, et d'expression d'amour prend forme. Avant, nous avons des fragments poétiques, mais qui sont de tonalités très différentes, qui sont généralement des chansons de femmes, comme nous disons, c'est-à-dire que la voix qui se fait entendre est ou prétend être une voix féminine, pour ce qui est de l'expression de l'amour, et nous n'avons que des fragments parce que ce sont des citations dans des poèmes arabes d'Espagne, ce sont des témoignages indirects, enfin, c'est quelque chose de très épars, ce qui est naturel, puisque la langue d'oc, comme toutes les autres langues romanes, les langues nées de l'évolution du latin parlé, c'est une jeune langue. Je dis, ce sont les premiers poèmes complets, pas seulement en languedoc, pour l'ensemble de ces langues,
de toutes ces langues qui sont issues du latin, qui sont toutes
jeunes, qui ont dû, elles ne sont pas nées brusquement d'un coup. Il y a eu un moment où l'homme de la rue, comme on disait en philosophie dans ma jeunesse, ne comprenait plus le latin officiel. À ce moment-là, on considère que ce qu'il parle, c'est une langue nouvelle. Et ce moment a dû se produire à la fin du 8e siècle, à peu près, charnière du 8e et du 9e siècle, l'espace des Gaules, si on peut dire. Peut-être un peu plus tard, dans la péninsule italienne, dans la péninsule ibérique, on sait pas trop.
Ouais. Donc il se trouve que dans ces langues qui sont un peu des créoles, qui se sont constituées suite à un processus de créolisation, avec un latin déformé, des langues germaniques qui sont arrivées, des résidus du celte, etc., de nouvelles langues ont pu se constituer, et ce sont donc pratiquement les premières lettres de noblesse poétique écrites qu'on ait gardées de ces langues-là.
Exactement. Comme je disais, nous avons des bouts de... les serments de Strasbourg, nous avons...
Et puis la cantilène de Sainte-Eulalie, qui est autre chose, parce que ce n'est pas un texte politique. Alors que les sermons de Strasbourg, c'est un traité de paix, il y a deux frères qui se liguent contre le troisième.
C'est pour une raison diplomatique et juridique que Nittard les a insérés dans leur langue, le français, si on peut dire, du français et l'allemand, dans sa chronique.
Ouais, Nittard étant donc le premier scribe, on peut dire, celui, je crois que c'était un petit neveu de Charlemagne,
C'était le fruit des amours de la fille de Charlemagne et du poète de cour Angilbert, poète en latin à l'époque, naturellement. Mais donc en 843, c'est le premier texte que nous avons, et la séquence de Sainte-Eulalie, c'est 881-82, on peut la dater, mais c'est un poème liturgique, pour le coup, en français, qui accompagne un office de Sainte Eulalie en latin, une synchrose de ça. On voit très bien comment il faut écrire dans cette langue nouvelle pour que le peuple comprenne, pour qu'on le faisait venir à l'office de la Sainte. Mais dès 813, c'est-à-dire l'année d'avant la mort de Charlemagne, il y a un concile à Tours qui dit qu'il faut prêcher dans la langue des paysans, in lingua rustica, et ni, je ne sais plus s'il dit gallica ou romana, gallica, je crois, aot theotisca, donc gauloise ou teutonne. Donc il a conscience qu'il y a des langues, on peut plus continuer à prêcher en latin, même dans l'espace roman.
Michel Zinc, on vient d'entendre l'extrait d'une chanson de Marc Abroux, qui est donc un troubadour. Vous dites, au début de votre livre, donc consacré aux troubadours, qu'ils écrivent une poésie extrêmement sophistiquée, savante, même si elle peut être comprise par le plus grand nombre. Ce n'est pas forcément une poésie qu'on décode difficilement, mais elle correspond à un usage savant, à des contraintes. Alors, où se situe la sophistication dans l'écriture de ces poèmes des troubadours, Michel Zinc?
Oui, elle se situe à la fois dans le langage poétique, dans la conception de l'amour et dans la conception du rapport entre l'amour et la poésie. Dans le langage poétique, parce que il y a une très grande recherche dans la construction strophique, le système des rimes, l'alternance des vers longs et des vers brefs, etc. Et ils ne doivent pas, c'est comme les cours au Collège de France, ils ne doivent pas se répéter, ils ne doivent pas reprendre exactement ce qu'a fait un prédécesseur, sinon dans une intention satirique, toujours introduire une variation. Et une sophistication dans le langage, parce que dans la syntaxe, parce que ils aiment les ruptures, ou au contraire les sinuosités, les formules frappantes. Ils aiment aussi une certaine obscurité et une certaine rugosité. Surtout ceux d'entre eux, ça a été une mode au début de la seconde moitié du XIIe siècle, ça s'appelle le trobarclus, la façon de composer close, obscure. Et là, non seulement le poème utilise des formes difficiles à comprendre, non seulement il utilise, alors ça ils le font un peu tous, d'aller chercher par exemple des mots régionaux et de les glisser dans leur poème avec un sens un peu différent, un peu de façon à créer un effet un peu particulier, mais aussi d'utiliser, de rechercher ce que Malherbe condamnera, des mots, des monosyllabes, des grappes de consonnes, pour avoir des effets rugueux à l'oreille. Et pourquoi rechercher cette rugosité? Parce que l'amour lui-même est rugueux, parce que l'amour est un sentiment contradictoire, fait à la fois d'exaltation et de douleur, et il faut que le langage poétique rende dans cette rudesse cette sorte de tension de l'amour. Et enfin, sophistiqués, parce que ils ont le sentiment, qui est un sentiment que devrait éprouver tout poète, que un poète d'amour qui dit son amour livre l'intime et en fait publie ce dont il dit que c'est secret, que c'est le plus profond en lui-même. Et pour résoudre cette contradiction, eh bien, il faut bien affirmer qu'on ne s'adresse qu'à ceux qui sont capables de sentir, de comprendre ce qu'on éprouve.
L'autre chemin joué, un saint pas de matin, si vil et m'avoué, un poil loin du chemin, un trop d'élite jardin. Il est calard broué sous la cime d'un pé, où les hommes à jouer, trop grand alors la paix, si tourné dans mon chemin. L'assiste à l'une poudrouée, pastour filalé, et gardouait-il l'exaproué, seul fort d'un maté, qui tenouait le chien fanté, et l'étouette est belle et blouée, blanche comme fleur de paix, et ses cheveux reflamboués, plus clair que nul orphée, sous un regret ou érobé. J'ai gardé sa grande beauté, si fuite d'ici sous prise, non je ne fus revenu, qui n'en devut être triste, je me lançais pour triste, quand elle me dit exemplée, si dit qui vous assimise, ce n'est pas fait à mon gré, car l'aube dit mes amis, vendra jasser ma promise. Votre merci, fuyez de si, puis aussi la délaïs, j'ai fait ami, bien le voulis, un jouet de ses pays, robe son de visaïs, allez à la tarivera, jouer à ses pays, si cuillera quand vous verra, ce n'en est parti ce que vous ayez entreprise. Je l'ai gardé parlant à moi, si les sadis sa démour. Et par amour et par douceur, les deux bras au collimis, puis il dit qu'on fils à mis. Belle femme et moi, je vous autrouai mon cœur et toute ma moule. Qui est meilleur que les pastours, tenez, je vous en saisis, attendez les limacis. Si le dit-elle ne vend rien, j'ai fait ami qui est tout mien, à qui j'ai bien tenu l'étier, la fouée que je l'imprimise, tant pauvre je savais.
On voit bien que toute cette poésie n'est pas improvisée, elle est extrêmement élaborée et on en a gardé des traces. En tout cas, sinon des traces de la musique, ça c'est peut-être plus difficile. Il y en a quelques-unes, mais surtout on a gardé les textes. On a gardé les textes dans ce qu'on appelle des chansonniers. Michel Zinc, dites-nous un petit peu alors ce que sont ces chansonniers.
Alors, les chansonniers, ce sont des anthologies. Ce sont des manuscrits qui rassemblent les poèmes qui plaisaient le plus des poètes qui plaisaient le plus. Mais enfin, ou qui rassemblent les poèmes des troubadours. Parce que on a des centaines de troubadours, des milliers de poèmes dans ces chansonniers. Mais ce qui est frappant, c'est que ce sont des manuscrits assez tardifs. Ce sont des manuscrits qui ont été copiés au plus tôt à la fin du XIIIe siècle, souvent jusqu'au milieu du XIVe siècle.
C'est-à-dire à une époque où des troubadours, proprement dit, il n'y en a plus.
Il y en a encore, mais enfin l'art est un peu en déshérence et la grande époque est finie. Et la plupart de ces manuscrits, de ces chansonniers, de ces anthologies des poèmes des troubadours, ont été copiés non seulement tard, mais hors du domaine doc. Presque tous en Italie du Nord, spécialement en Vénétie, dans la région de Padoue. Ce que cela montre, c'est que on a eu le soin de conserver cette poésie par admiration pour elle, un peu déjà de l'extérieur, et comme justement quelque chose qu'il fallait conserver. Sur le moment, au XIIe siècle, dans la première moitié du XIIIe siècle, au moment où cette poésie est très vivante, elle circule oralement, c'est-à-dire que le poète compose sa chanson et puis il va la chanter. Ou bien quand il a les moyens, il a un jongleur à son service qui va la chanter. Ou bien un jongleur circule avec un répertoire. Ou alors il la copie, mais sur un petit rouleau de parchemin, un relais, hein, ce système qui a été utilisé ensuite au début du théâtre pour que chaque acteur ait son texte, et c'est pourquoi nous disons un rôle au théâtre, parce que ça vient de ce relais, et on envoyait ces relais. Et il y avait une sorte de vie, de société, de jeu de société presque autour de ces poèmes, qu'on se chantait, qu'on se récitait, qu'on s'envoyait de château en château, parce que c'est une civilisation castrale, encore plus qu'urbaine, dans le midi de la France. Et moi, c'est une société de cours, d'où ce nom de poésie courtoise, d'abord courtois, qu'on a employé à partir de la fin du 19e siècle, c'est une expression récente. Et c'est plus tard qu'on a rassemblé ces poèmes. Alors, quant à la musique, il se trouve que pour les équivalents des troubadours en langue d'oïle, qui sont donc les trouvères.
Donc, le nord de la France.
Nord de la France. Oui. Vous savez, c'est Dante qui, dans son traité de l'éloquence en langue vulgaire, de Vulgari Eloquentia, désigne les trois principales langues romanes, néo-latines, selon la façon de dire oui dans chacune. La langue d'Oïle, oui. La langue d'Oc, oui, la langue. Et la langue de Si, l'italien. Donc, les manuscrits des trouvères sont beaucoup plus nombreux à donner les mélodies. Et pour une raison qui nous échappe, il y en a quelques-uns, mais rares sont les manuscrits des troubadours qui donnent les mélodies. Donc ces manuscrits qui sont ces anthologies si soignées, si luxueuses souvent, souvent ne donnent pas la mélodie. Alors est-ce qu'elle paraissait moins importante? Est-ce qu'on la connaissait encore? Est-ce que le fait que à l'époque où ces chants manuscrits ont été copiés, la poésie devient souvent récitée, ce qu'elle n'était pas avant, fait qu'on se désintéresse de la musique? Je n'en sais rien. En tout cas, tel est le cas. Et quand les mélodies sont conservées, elles sont en notation carrée sur des portées à quatre notes avec une clé, donc on peut chanter, mais il n'y a pas d'indication de mesure. Et ce qui pose des problèmes très délicats d'interprétation et aussi de relation entre la mélodie et le texte. En fait, il semble bien que la mélodie mettait le texte en valeur, plus que le texte n'était à son service, comme c'est souvent le cas aujourd'hui dans des chansons.
Michel Zinc dans la danse des mots pour parler donc des troubadours à propos de la réédition de votre ouvrage qui est consacré donc à toute cette tradition poétique. Au début de votre livre, vous dites que les troubadours à la fois ont inventé une sorte d'art poétique et une sorte d'idéologie amoureuse, d'idée de l'amour. Et en même temps, c'est paradoxal parce qu'on voit que chez les troubadours, on avait en alternance les séquences les plus grivoises, les plus grossières, et en même temps un finamor ou amorce, je ne sais pas, qu'on a tendance
féminin même au singulier,
qui donne ce qu'on a appelé par la suite l'amour courtois et qui justement est très prend beaucoup de recul par rapport à la présence du corps et en tout cas à cette grivoiserie.
Alors les troubadours sont grivois. Il y a une bonne partie de la littérature du Moyen-Âge est grivoise. Mais la poésie des troubadours est grivoise marginalement et quand elle est délibérément un contre-texte. Ce qui se trouve. Lorsque elle est sérieuse, si je puis dire, elle ne l'est pas, mais elle n'est pas chaste pour autant. C'est une conception de l'amour qui place au centre une sorte de réflexion sur le désir. Le désir désire être assouvi, mais naturellement. Mais il redoute en même temps de l'être parce qu'il sait que assouvi, il mourra comme désir. Et c'est pour les troubadours ce qui crée cette tension dans le sentiment amoureux, ce qui fait que le sentiment amoureux est toujours contradictoire, puisqu'il désire d'une certaine façon sa mort, mais puisqu'il sait que il n'est jamais ni totalement triste ni totalement gay. Il n'y a pas d'amour, si malheureux soit-il, qui n'ait son exaltation. Il n'y a pas d'amour, si heureux soit-il, qui ne soit inquiet. C'est ça qu'ils essayent de rendre dans leurs poèmes. Mais sont des poèmes du désir. Donc ce désir, ils le disent. Mais puisqu'il faut non pas en abolir l'assouvissement, mais le retarder. Eh bien, il est retardé de toutes les façons, et en particulier par le fait qu'il ne doit pas être satisfait de force. La force étant entendue de façon très très large, comme aujourd'hui. Il ne doit pas y avoir de harcèlement. Théoriquement, on ne doit pas pouvoir aimer une femme. Guillaume IX ne pouvait pas le faire, naturellement, et lui, il ne se gênait pas. Mais on ne peut pas aimer une femme d'un rang inférieur au sien, parce que ça ne vous élève pas, et en même temps, on est tenté de faire pression sur elle. La fameuse, c'est une légende, mais ou c'est une plaisanterie chez les troubadours eux-mêmes, que l'amour est nécessairement adultère. Eh bien, le fond de vérité là-dedans, c'est que si on aime son épouse, on a droit au corps de son épouse. Le désir n'a pas le temps de s'exacerber, il peut déjà être satisfait. Tandis que si on aime la femme d'un autre, ça c'est dangereux, ça c'est difficile, puis elle vous doit rien. Et il faut la mériter. Donc c'est cette construction, ensemble, qui donne cette tonalité très particulière. Et c'est une poésie qui peut être très sensuelle, mais d'autant plus sensuelle qu'elle est en même temps timide et retenue. Comme un amour adolescent très très brûlant et en même temps terrible. Alors, ils décrivent le corps aimé, ce corps blanc sous les vêtements, blanc comme la neige de Noël, blanc comme la neige après le gel, mais sous les vêtements, je ne dis que par supposition, dit Bernard de Ventadour, qui ne voudrait pas qu'on l'accuse, etc.
Eh bien, merci beaucoup Michel Zinc de nous avoir tant donné l'envie d'expérimenter l'amour peut-être. C'est une bonne façon d'entrer dans cette année 2018, mais aussi de lire les troubadours et d'une certaine façon leur éloge du pléonasme que j'adore. Hein. Il est juste que chacun jouisse de la joie dont il est jouissant. Voilà une façon de faire tourner les mots dans la bouche et de faire réfléchir sur ce qu'ils veulent dire, qui est extrêmement apéritif. Merci bien d'avoir été dans la danse. Des mots. Une émission qui vous est proposée par le réseau Canopé et par RFI, Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.